histoire particulière. Les incendies à Paris furent hélas fréquents. Il y a bien sûr celui de Notre-Dame, dont nous parlerons prochainement, mais aussi, peut-être moins connu, l'Hôtel-Dieu, qui subira 3 incendies dévastateurs. Celui de l'ambassade d'Autriche en 1810 et de la deuxième salle Favart en 1897 pendant une représentation. Il coûtera la vie à 84 personnes. Le 4 mai 1897 est une date qui restera dans les annales des incendies parisiens. Eleonora Krief et François Teste vont aujourd'hui vous en raconter l'histoire. Quant à moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Une histoire particulière.
Le bazar de la charité, bienfaisance et mondanité. Par Eleonora Krief et François Teste.
Sur un terrain vague de la rue Jean Goujon, en face des écuries Alphonse de Rothschild, le bazar de la charité dressait son éphémère assemblage de bois et de toiles. Clovis y arriva un peu avant 4 heures, certain de mener rondement son affaire. Entré dans cette élégante volière, le jeune homme ne vit d'abord devant ce décor de toiles peintes qu'une houle de haut de forme et de grands chapeaux féminins ornés des inventions les plus burlesques des modistes, toute une foule au-dessus de laquelle s'élevait une estrade centrale. Hissé là-haut, un appareil cinématographique, la grande nouveauté du jour, allait, disait le programme, projeter à l'écran l'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin.
Le 4 mai 1897, vers 4h30, le petit Paul Morand sort de l'école accompagné de sa grand-mère et regagne son domicile rue Marignan à Paris. Traversant la rue Jean Goujon, le futur écrivain passe alors devant le bazar de la Charité, une institution fondée quelques années auparavant par des membres de la haute société catholique où l'on rassemble un certain nombre d'œuvres de charité. Cette année-là, le bazar s'est installé sur un terrain vague de cette rue proche des Champs-Élysées et situé juste de l'autre côté du pont Alexandre III où trône la tour Eiffel depuis à peine 10 ans. Sur 80 mètres de long et 20 mètres de large, les organisateurs du bazar ont reconstitué en bois une vieille rue de Paris dans un décor moyenâgeux où chaque comptoir a son enseigne pittoresque. L'écu d'argent, le pélican blanc ou le lion d'or, cette pieuse et charitable manifestation est aussi une des dates les plus importantes du calendrier mondain. On comprend alors que le lieu insolite, la concentration de tant de jolies femmes et finalement la tournure dramatique de ce Moyen-Âge de carton-pâte est inspiré à Paul Morand une célèbre nouvelle sur l'intrigue imaginaire de Clovis de Saxifron. Drame, rumeur, injustice, révélation, cet événement qui survient dans le Paris de la Belle Époque réveille bien des colères.
Au départ, l'année 1897 aurait dû être calme.
Bruno Fulini, historien.
Il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. En revanche, il y a un contexte assez tendu. Nous sommes sous la Troisième République, mais la République ne fait que se stabiliser à ce moment-là. Ça reste encore une forme de gouvernement un petit peu fragile, avec des monarchistes nombreux qui rêvent de la faire tomber. On est quelques années seulement après le boulangisme, donc le moment où les nationalistes, soutenus par des royalistes, par des bonapartistes, ont failli faire tomber cette république. Et puis à l'extrême gauche, il y a aussi dans le monde ouvrier des déçus de la république parlementaire. Il y a eu une crise anarchiste avec des bombes, des assassinats entre 1892 et 1894, donc une certaine violence. L'affaire Dreyfus est enclenchée, puisque le capitaine Dreyfus a été arrêté en 1894, il a été condamné, et pour à peu près tout le monde, l'affaire est close, il est coupable. C'est l'année suivante, en 1898, que Zola va publier son fameux J'accuse, et que l'affaire va être relancée et donner lieu à un affrontement extrêmement virulent entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Donc on a toutes ces tendances-là, antisémitisme, nationalisme, anarchisme, qui travaillent une société qui elle-même est en pleine mutation, car nous sommes aussi à une époque où, bien sûr, on croit beaucoup en la science, au progrès, et on voit la société se transformer par l'action conjuguée des chemins de fer, des premières automobiles, des tout premiers engins volants, Bref, c'est une société en totale mutation.
On peut rappeler aussi qu'à cette époque, l'impôt sur le revenu n'existait pas encore. La noblesse était en droit de posséder toute sa richesse.
Non seulement l'impôt sur le revenu n'existait pas, les socialistes et les radicaux le réclamaient, ça paraissait une réforme très dangereuse, mais il n'y a pas non plus de protection sociale. Si vous êtes malade, chômeur, eh bien vous n'avez plus aucun revenu. Et donc l'extrême richesse côtoie l'extrême pauvreté.
Et c'est dans ce contexte que la charité s'organise. Elle devient une activité économique.
Oui, alors bien sûr, il y a toujours eu des œuvres de charité. Simplement, pour faire pièce aussi à la fraternité des républicains, les milieux cléricaux, comme on disait à l'époque, les monarchistes, les catholiques, s'organisent de façon à montrer que eux aussi se préoccupent du peuple, eux aussi se préoccupent des familles dans le besoin, des familles malheureuses, a fortiori des familles méritantes. Donc il y a des œuvres de charité.
Je suis Nelly Ducret, la présidente donc de l'association du Mémorial du Bazar de la Charité, association qui existe depuis 1972.
Vous êtes vous-même une descendante d'une victime ?
Oui. Oui, oui, moi je suis descendante donc directe, mon aïeul direct est mort ici, et j'ai aussi une arrière-grande-tante qui est morte ici.
Et c'est un lieu où se recueillent les descendants ?
Alors, les descendants, oui, bien sûr. D'abord, il y a une commémoration annuelle, le 4 mai, donc il y a une messe. Et puis ensuite, il y a beaucoup de descendants qui viennent visiter. Les gens ont besoin d'avoir les références du passé.
Il y a eu des objets qui ont été retrouvés après l'incendie.
Oui.
Ils sont.
Alors, on en expose quelques-uns, oui, pour laisser un petit peu de souvenirs dans le site, qui sont dans le mémorial.
Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut aller les regarder ?
Bien sûr.
C'est pas du tout un grand magasin, le bazar de la charité. C'est une vente annuelle qui a lieu au printemps et qui fédère finalement des œuvres de charité très pieuses, chacune étant patronnée par une dame de la très grande bourgeoisie ou mieux encore de la haute aristocratie.
Bienvenue au bazar de la charité. Pour effectuer vos achats, n'oubliez pas d'échanger votre monnaie contre le coupon du comptoir qui se trouve en face de l'entrée. Pour vous divertir, vous trouverez dans les boîtes du bazar un orchestre que vous pourrez récompenser de vos généreux qui seront entièrement reversés aux jeunes aveugles d'Autun.
Bruno Filini, qui est à l'origine de cette idée du bazar de la charité ?
Alors, il y a un collectif de notables importants, souvent à particules, comme le comte Albert Demain, comme surtout le baron de Macau. Ce sont des hommes qu'on retrouve aussi dans l'univers des cercles catholiques d'ouvriers. On retrouve l'idée d'un catholicisme social, d'une aristocratie et d'une grande bourgeoisie qui se préoccupe du peuple à travers des œuvres, à travers des réseaux qui permettent de venir en aide aux familles qui le méritent ou qui sont vraiment dans le plus grand besoin.
Nous sommes donc devant une vitrine où on peut voir des objets qu'on a retrouvés après l'incendie. Donc notamment des chapelets. Là, je vois une petite poupée noircie.
C'était des poupées qui étaient en vente. Ce jour-là. Alors effectivement, on a beaucoup de chapelets, on a beaucoup de paires de ciseaux, on a des médailles, on a retrouvé un pommeau de canne, puisqu'on a accusé les hommes, effectivement, il y en avait moins un qui a perdu son pommeau, puisque vous avez le pommeau ici. Et puis on a retrouvé aussi, quasiment miraculeusement, le tampon sec. Donc du bazar de la charité que vous voyez ici, qui était donc le tampon avec l'inscription bazar de la charité, avec le cœur enflammé, donc il est le symbole de la charité.
Mais donc il y avait des comptoirs associatifs et des comptoirs aussi de vente.
Voilà. Et puis parfois le comptoir de vente était associatif. Par exemple pour les jeunes aveugles, il y avait un comptoir de jeunes aveugles. Eh bien les jeunes aveugles faisaient des démonstrations de ce qu'on leur avait appris à faire sans la vue, c'est-à-dire lire une carte ou des choses qui... Et le donateur arrivait, alors lui donnait carrément de l'argent sans récupérer un objet. Ensuite, on a aussi une personne qui chantait très bien, Hein. Et cette personne s'était mise dans un petit endroit qu'on lui avait réservé. Elle chantait, et puis elle avait une corbeille, et elle récupérait donc de l'argent pour une œuvre. Cette vente rapportait quand même 1 million de francs or.
Pour l'édition 1897, le comité décide de faire preuve d'imagination en construisant un édifice éphémère.
Oui, il faut savoir que d'année en année, le bazar de la Charité ne se tenait pas au même lieu. Certaines années, c'était un des membres du comité d'organisation qui mettait son hôtel particulier à disposition pendant quelques jours. Ça avait l'avantage d'être gratuit. Mais ça n'était pas très pratique non plus. Et puis, pour l'année 1897, l'un des membres est propriétaire d'un terrain vague qui est très bien situé, rue Jean Goujon, c'est-à-dire une rue proche des Champs-Élysées, proche de l'avenue Montaigne. On est vraiment dans les beaux quartiers, pas très loin de la Seine. On peut donc y aller facilement, se promener dans les parages. Et ce terrain vague est très grand, ce qui permet d'y construire une structure ad hoc. Et donc on va construire une sorte de grande baraque foraine, mais vraiment grande, c'est-à-dire 80 mètres de long, 13 mètres de large. Nous sommes à environ 1000 mètres carrés. Simplement, c'est une baraque en bois de pitch-pin, donc un bois de résineux, très inflammable. Et elle va être décorée richement, mais rien ne sera inifugé. Elle est couverte de toiles bitumées, autre matériau très inflammable. Elle est décorée aussi dans un style qui va beaucoup plaire à la clientèle un petit peu réactionnaire de ce bazar, puisqu'on a racheté une rue du Vieux Paris en carton-pâte qui avait fait fureur lors d'une exposition récente. Et donc, ce sont des échoppes avec des enseignes, des échauguettes, des machicoulis, une pseudo-église gothique, tout un univers de théâtre finalement qui représente une rue de Paris au Moyen-Âge. Ça plaît beaucoup, ça a une certaine allure. On a des photos du bazar au moment de son inauguration. C'est assez amusant hein, comme décor. On imagine que ça aurait pu être tout à fait festif. Et puis, non seulement tout est inflammable, rien n'est inifugé, mais se pose aussi le problème des issues. C'est-à-dire qu'il y a deux entrées principales et l'un des membres du comité, M. Blount, fils de banquier, a l'idée géniale de faire comme dans la banque de papa, c'est-à-dire d'installer des portes-tambours. Alors c'est très beau, c'est très spectaculaire, mais évidemment, une porte-tambour, ça se bloque rapidement en cas d'affolement. Il y a d'autres issues, mais ce sont des portes qui ne s'ouvrent que vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Donc si jamais il y a un mouvement d'affolement, des gens qui se pressent ou des gens qui tombent au sol, la porte est bloquée, ne peut plus s'ouvrir. Là, on a véritablement construit un piège sans s'en rendre compte. C'est une sorte de trappe, c'est une boîte infernale qui a été bâtie et il ne manque plus qu'une étincelle pour mettre le feu absolument partout. D'autant qu'il y a un vélum au plafond, c'est-à-dire une toile qui peut transmettre la flamme d'un bout à l'autre. Il y a un plancher, donc là aussi, le sol lui-même est inflammable. Et à aucun moment dans l'organisation de ce bazar, on ne se pose ce problème de sécurité.
Cela ne s'abattit pas d'un coup comme la foudre. Cela montait en ondulant, en gagnant le vélum avec une précipitation si furtive qu'on n'y aurait pas porté attention si des cris d'effroi n'avaient jailli. Au feu ! Au feu ! Clovis se retourna et vit une flamme se dresser sur l'estrade. Elle s'enrubana autour du cinématographe qui, dans un grésillement instantané, se mit à fondre avec toutes ses pellicules. Les gestes qu'on pouvait faire pour se protéger ou pour fuir arrivaient trop tard, car l'incendie avait déjà lancé son coup de gueule au ciel, ses griffes à travers la foule.
Nous avons devant nous un témoin.
Archivina.
C'est une dame, Madame Fabienne Bouly.
1956.
Qui m'a écrit qu'elle était une rescapée du bazar de la Charité. Alors, Madame, votre témoignage est particulièrement intéressant. Voulez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?
Eh bien, j'ai été au bazar de la Charité accompagnant une dame, Madame Legrand, qui n'a même pas été identifiée, qui a été brûlée complètement. Et nous devions aller à cette fameuse représentation de cinématographe, ce qui était une curiosité à l'époque. Nous arrivons presque devant l'entrée de ce cinéma et j'entends, boum, dans ma vie d'enfant, j'ai dit, tiens, la fête commence. C'était l'explosion. Et alors, je lève le nez et je vois des flammes, mais immédiates. et prenant, vous savez, une vitesse extraordinaire. Et moi, j'ai reçu, sur ma Charlotte, j'étais habillée en broderie anglaise, j'ai reçu une goutte enflammée. Cette goutte enflammée a glissé sur la Charlotte, m'a enflammé les cheveux que je portais longs, a abîmé ma robe, m'a fait d'abord très mal, m'a donné une peur horrible. La porte d'entrée, dont je n'étais pas très éloignée, était entrouverte. J'ai eu la force de m'arracher au bras de Madame Legrand et je suis sortie une des premières en flammes. En face de la rue Jean-Goujon, il y avait des palefreniers, des valets de chambre, vous savez. Ils avaient un fameux gilet jaune et noir.
Gilet rayé de l'époque.
Oui. Et alors, il y a un de ces braves hommes qui m'a éteint avec ses mains.
Il y a une petite salle dans laquelle on va pouvoir assister à une projection du cinématographe Lumière. Alors, il faut bien voir qu'en 1897, tout le monde a entendu parler du cinématographe Lumière, mais très peu de gens ont vu des images. L'invention ne date que de 1895, c'est tout récent. En plus, les premières représentations de cinéma ont lieu plutôt dans les foires, dans des baraques, où évidemment ces dames de la haute société ne vont pas se commettre. Donc, on est très content, et surtout les enfants, de découvrir enfin cette invention dont on parle tant. Il y a cette salle de projection avec un écran, mais surtout un appareil. Et cet appareil, évidemment, n'est pas un appareil électrique. C'est un projecteur dit Molteni, du nom de son inventeur. Dans cette baraque qui a été construite, on n'a pas l'électricité. Et puis, de toute façon, l'électricité coûte très cher en 1897. Donc, on produit de la lumière autrement, par une réaction chimique, avec une sorte de bâton de craie qui est frappé par un souffle d'oxygène qui passe à travers une éponge imbibée d'éther. Et ça crée une très belle lumière blanche qui permet de projeter les images impeccablement. Il y a un tout petit inconvénient, c'est que cela dégage des vapeurs d'éther. Et figurez-vous que le projectionniste, à un moment, doit changer une ampoule, il manque de lumière, il réclame de la lumière. Il veut dire par là qu'il faudrait entrouvrir le rideau noir pour qu'il ait un petit peu de lumière du jour. Son assistant distrait craque une allumette.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une véritable bombe qui explose à ce moment-là. L'air est saturé d'éther inflammable et bien sûr les pellicules elles-mêmes qui sont en celluloïde sont également inflammables. Donc la flamme qui apparaît communique immédiatement le feu aux pellicules qui elles-mêmes communiquent le feu à la structure en bois. Et en moins de 20 minutes, les 1000 mètres carrés du bazar de la Charité vont être un vaste brasier duquel on aura beaucoup de mal à sortir.
Le vélum tendu au-dessus du bazar se gonfla d'air chaud comme une montgolfière, fit craquer ses cordages, tendit une vaste bannière mouchetée de jaune, puis de roux, enfin de noir, qui se perfora avant de se déchirer. Les têtes levées, aveuglées par le soleil, ne voyaient pas que le plafond de toile brûlait. Ce ne fut que lorsqu'il eut cédé au passage de l'appel d'air qu'il fléchit sous son poids et se rabattit sur les assistants. Avant de comprendre qu'ils allaient être rôtis, avant de chercher une issue, ceux-ci reçurent l'averse de feu sur les épaules. Les ruchers et les festonnés, la paille des grands chapeaux, la mousseline des robes, le taffetas des volants et la soie des ombrelles, les voilettes, les rubans et les plumes, l'organdi et la percale, tous les tissus légers comme des vapeurs qui habillaient les corps des femmes, heureuses de s'abandonner à un précoce été, s'allumèrent comme des feux de joie, flambèrent dans l'air tiède, imprégnés de parfums exquis et de lotions ambrées. Une épaisse fumée roulait maintenant d'un bout à l'autre du bazar, au gré des courants d'air, éclatant ça et là avec des détonations molles de gaz allumé. Fumée bleue sur les bords et qui en son centre s'épanouissait en jaune, tournée au bleu de ponche.
Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous! Un feu s'est déclaré dans la partie gauche du bâtiment. Tout le monde va pouvoir sortir. Les pompiers vont arriver. Allez, je veux dire quelque chose là, vite. Dépêchez-vous, messieurs.
À l'époque du bazar de la Charité, j'étais couturière dans une des plus grandes maisons de couture de la rue de la Paix.
Alors vous étiez donc le fournisseur, en somme, de la plupart des robes des dames qui vendaient à ces comptoirs.
Ah oui. Et alors, nous avons perdu beaucoup de clientes ce jour-là.
Mais vous avez appris comment l'incendie?
Vers 4 heures de l'après-midi, les pompes passaient à toute vitesse, de tous les côtés, dans la rue de la Paix. Alors, il y a un livreur qui est venu, qui était là pour chercher cette fameuse robe que nous ne pouvions pas livrer, et qui a dit « c'est le bazar de la charité qui flambe ». Nous ne l'avons pas cru sur le moment, mais nous avons réalisé après, quand on nous a vraiment dit que le bazar n'existait même plus à 6h, 6h30.
Et vous êtes allé voir?
Vers 8h, alors nous sommes allés voir. Alors ça, c'était terrible. Toutes les personnes qui avaient perdu quelqu'un en avaient donc mis de chaque côté du bazar, dans tous les endroits aux alentours, des blessés que l'on pouvait un peu soigner. Alors on voyait des messieurs, des dames qui allaient chercher « Pardon, madame, vous n'avez pas une vieille dame âgée ?» Non, nous n'avons que des jeunes filles. Elles repartaient en pleurant. Enfin, tout le monde pleurait de ce moment-là, n'est-ce pas?
Alors là, on est devant des plaques avec le nom des victimes.
Vous avez les premières victimes, donc jusqu'à la lettre H, de la lettre A à la lettre H, bien sûr. Et vous avez à peu près, on va dire, toutes les conditions de la femme qui sont représentées, hein. Et ce qui est un petit peu regrettable, c'est, si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle du bazar de la charité, on voit que le côté mondain et superficiel de l'affaire. Alors que la plupart de ces femmes, surtout celles qui dirigeaient les œuvres de charité, étaient des personnes qui s'étaient vraiment consacrées aux œuvres de charité. C'est ce qu'on appelait les dames patronesses. Et ça, c'était un engagement du 1er janvier au 31 décembre.
Ce que vous dites, c'est que la charité occupait une place importante.
Ah, complètement, ça faisait partie de leur vie. Et on voit, parce qu'elles avaient leur journal, elles racontaient ce qu'elles faisaient. Tous les jours, elles allaient, pour certaines, soigner dans les hôpitaux. Alors, une partie de la journée, bien sûr, elles avaient leur vie. Et après, celles qui étaient... On a des femmes qui étaient seules, ou qui étaient veuves, sans enfants, ou qui étaient célibataires, qui, elles, se consacraient complètement aux œuvres du matin jusqu'au soir. C'était une autre époque aussi, hein, donc...
Bruno Fulini, sur quoi repose le succès du bazar de la charité?
Alors, il y a bien sûr la volonté de bien faire ou de faire le bien, de venir en aide aux malheureux, mais il ne faut pas perdre de vue que le bazar de la charité est aussi un événement mondain assez couru, que certains ont d'ailleurs surnommé le bazar des fiancés ou le bazar aux fiancés. Pourquoi? Parce que nous sommes au printemps, hein, début mai, et tous ces stands des œuvres charitables sont tenus, certes, par des dames patronales, mais qui sont secondées par les jeunes filles de la haute société. Et donc pour tous les messieurs bien mis, les jeunes gens de l'aristocratie, c'est l'occasion d'approcher ces jeunes filles en dehors, je dirais, de l'étiquette traditionnelle, sans la lourdeur des réceptions dans la famille, à tel particulier de la duchesse. On peut même, en achetant une babiole, qu'on paye évidemment très cher pour montrer d'abord qu'on a du bien et pour venir accessoirement en aide aux bénéficiaires, eh bien c'est une manière à la fois de montrer qu'on n'est pas un chasseur de dot, qu'on est quelqu'un de bien installé dans la vie, donc un parti sérieux en vue d'un éventuel mariage. On peut espérer recueillir quelque chose de fou, comme une bise sur la joue par exemple, ce qui évidemment en 1897 dans cette société-là est vraiment le maximum de ce qu'on peut espérer avant le mariage. Voilà, donc le succès du bazar s'explique aussi par cette dimension mondaine, festive, et c'est pourquoi d'ailleurs les jeunes femmes qui viennent au bazar sont particulièrement bien habillées. Elles ont des chapeaux magnifiques avec des plumes, des fruits artificiels. Elles ont bien sûr leurs plus jolies robes, mais ce sont des robes qui sont comme ailées avec des volants, avec de la gaze, avec toutes sortes d'ornements. Hélas, tout cela est hautement inflammable.
Les comptoirs flambaient presque en même temps. On voyait des jouets d'enfants vernissés de frais et des objets de piété fondre comme cire, les dentelles et les gants, les livres et les cuirs repoussés s'abattre dans un brasier qui s'en repaissait pour repartir à la conquête d'autres bagatelles. Ayant mesuré le peu de chance qu'elle avait d'échapper, la foule soyeuse et parfumée avait d'abord cherché à déchirer la toile des murs, à se glisser sous la palissade, prête à sauter dans le vide. N'y ayant pas réussi, elle s'était ruée vers l'étroite porte dans l'espoir insensé de la faire craquer, de l'agrandir, de l'obliger sous sa poussée à éclater. Mais, pareil à une bouche distendue et qui refuse la nourriture, la porte résistait. Alors la vague se brisait, retombait sous son poids, prise entre le feu, le broiement, l'asphyxie.
Archivina, 1956.
Comment l'ai-je appris, l'incendie? Je n'en sais rien. Par les domestiques, probablement. Toujours est-il qu'aussitôt que je l'ai su, je suis parti. Je n'avais pas encore 18 ans à cette époque-là. J'étais assez leste. Je suis parti en courant. Et par la place de l'Alma, je suis rentré dans la rue Jean Goujon. Et alors là, notre regard plongeait, n'est-ce pas, sur l'endroit sinistré à peut-être 60 ou 80 mètres. Alors on voyait que ça fumait, puis on voyait ce tas de cadavres. On disait, ce sont des cadavres qui brûlent. Et en effet, c'en était. On les a vus sortir un par un sur le trottoir. Il y avait même là un garçon, hein, en côte et en veste bleue, qui s'était bien dévoué, on en a parlé dans les journaux, c'est lui qui a commencé à les sortir. Il était à moitié brûlé, enfin... Ce garçon, je crois que c'est un ouvrier plombier, on l'a cité dans les journaux, il s'était très dévoué. Et c'est lui qui a commencé à les sortir. Et je lui en ai vu sortir plusieurs, comme ça, il les tirait par les bras, n'est-ce pas, puis il les mettait sur le bord du trottoir.
Et on ne l'aidait pas, il n'y avait pas des gens qui l'aidaient.
Il y a les pompiers, après, qui sont venus l'aider, oui.
Les pompiers sont arrivés combien de temps après le début d'incendie?
Alors, les tout premiers pompiers arrivent 5 minutes, parce qu'il y a un poste tout près, mais malheureusement leur voiture verse. Et puis les autres arrivent 10 minutes après l'incendie. Donc c'est très rapide, d'autant que nous sommes à une époque où les voitures de pompiers sont traînées par des chevaux. Au total, il y a 20 de lances à incendie qui vont être déployées et les pompiers vont réussir à circonscrire l'incendie et donc à faire en sorte que le feu ne se communique pas aux immeubles voisins. En revanche, ils arrivent déjà trop tard pour secourir les personnes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au moment où le feu se déclenche, quelques personnes ont, l'instinct de détaler immédiatement et de sortir, mais très vite, les personnes qui sont présentes dans le bazar vont être prisonnières de cette boîte qui s'enflamme de tous côtés vont hurler, vont crier, vont se démener, mais elles sont à l'intérieur d'une structure en bois assez solide. Quelques personnes vont être sauvées, oui, mais pas par les pompiers. Elles vont être sauvées par des passants. Le lendemain de l'incendie, dans les décombres, on dénombre 112 corps calcinés. Mais il y a ensuite des personnes qui vont mourir des suites de l'incendie, des suites de leurs blessures, soit à l'hôpital, soit à leur domicile. Donc pendant une quinzaine de jours, les journaux continuent d'annoncer des décès. Donc là, on va arriver à 125 victimes identifiées, plus 6 corps que personne ne réclamera jamais.
Le bazar de la charité, bienfaisance et mondanité. Avec Bruno Fulini, historien et auteur de l'ouvrage L'incendie du bazar de la charité. Nelly Ducret, présidente de l'association des familles de victimes de l'incendie du bazar de la charité. Archivina de l'émission Soyez témoin 1956, en collaboration avec Arnaud Plançon. Extrait de la nouvelle de Paul Morand, Le bazar de la charité, 1944, lu par Thierry Beauchamp. Coordination, Christine Bernard. Le bazar de la charité, une histoire particulière, Lénora Krief, François Test.
La suite de l'histoire de l'incendie du bazar de la charité, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est la rentrée cinéma d'Antoine Guillot.